Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabien.
Ah, je vous ai devancé.
Oui, ben vous allez plus vite que moi à cette heure-ci de la journée.
Oui. Alors Dominique,
il y a quelque chose qui m'a outré.
Ah.
Je pense qu'on est quand on dit qu'on est en déclin dans notre beau pays, pourtant ce pays est absolument magnifique avec une population admirable. Mais j'ai vu que c'est en Bretagne, je crois, pour parler de la famille, pour faire des lectures sur le thème de la famille à des enfants de 3 à 6 ans, on avait pris des drag queens. Et à Toulouse, on a fait la même chose.
En Bretagne, c'est étonnant qu'en Bretagne, ils aient accepté.
J'ai vu qu'il y a un village, il y avait une médiathèque, oui. Voilà. Et alors à Toulouse aussi, ça s'est fait, ça, déjà plusieurs fois. Et alors la personne qui était responsable de ça, je pense que c'était une ville de Bretagne, me semble-t-il. Je peux me tromper, mais la personne disait, mais de toute façon, oui, c'était pour évoquer la famille à ses enfants, et la famille sous ses diverses formes aujourd'hui, c'est-à-dire la famille remasterisée, si vous voulez, c'est-à-dire la famille telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire plus de famille, en fait, la déconstruction de la famille. En fait, le thème, c'était ça, ce qu'elle nous dit, entre les lignes, cette femme-là, et que, évidemment, c'était les drag queens qui étaient les mieux placés pour parler de ça.
C'est comme à l'école alsacienne aussi. Il y a eu une histoire aussi la semaine dernière.
Je pense que les enfants de Pamdia, ils doivent pas être contents.
Alors là, c'est les parents sont complètement outrés, mais c'est un garçon. Ah, il y a quelqu'un qui faisait la conférence qui disait un homme peut tomber enceint.
Oui.
Et là, il y a un petit garçon qui a dit mais non, c'est pas possible. Et là, paraît-il que c'est parti dans des explications, et les parents sont outrés.
Bah bien sûr, oui. Le petit garçon va survivre, mais il est courageux. Faut lui donner la croix. Je sais pas si on a toujours la croix dans les écoles, l'école alsacienne sûrement encore, oui. Voilà. Donc voilà. Alors, et elle expliquait, cette femme, donc pour les drag queens, pour parler de la famille, que le propos allait être adapté. C'est des enfants de 3 à 6 ans, je précise, 3 à 6 ans. Il est urgent de parler de la famille et des enfants de 3 à 6 ans.
À l'école maternelle, ouais.
Oui, ils la vivent chez eux, la famille, enfin, je suppose, j'espère pas. Eh bien, ça va être adapté, mais adapté par qui et selon quels critères? C'est ça qui m'intéresse. Et qu'on laisse faire ça. Il y a des inspections d'académie, il y a des académies, il y a un ministère, me semble-t-il, il y a un ministère de l'Éducation nationale. Il me semble que ça existe encore. Bon, on laisse faire. Alors, l'Éducation nationale n'est peut-être pas concernée parce que c'est une médiathèque. Mais il y a tout de même une ministre de la Culture. Il y a quand même des gens qui ont un peu la main là-dessus, qui gèrent les subventions des médiathèques, qui ont leur mot à dire. Ben non, on se couche.
Les mairies, généralement, je crois que c'est les mairies qui gèrent les médiathèques.
Ben on se couche. On dit, mais vous voulez parler de la famille de 3 à 6 ans? Peut-être. Vous voulez des drag queens? Peut-être. Mais pas que des drag queens. Vous voyez ce que je veux dire? Faut avoir quelqu'un qui vous parle de la famille chrétienne, quelqu'un qui vous parle de la famille musulmane, éventuellement, puisque on veut la diversité dans vous voyez? Mais voilà, on a mis devant des enfants de 3 à 6 ans une image de l'être humain qui est un être humain transgenre. Alors si on dit ça, on est transphobe. Mais c'est pas parce qu'on est transcritique qu'on est transphobe. Moi, je n'en veux pas du tout à ces gens-là qui veulent changer. Ils le font. C'est en eux qu'ils le fassent. Ouais. Mais que ce soit instrumentalisé et que si on se permet de dire que c'est attention, c'est pas sans conséquence probablement sur l'équilibre à venir et sur le bonheur à venir des enfants auxquels on expose ça comme un choix possible. Bah, c'est pas être transphobe, c'est simplement être prudent. Alors, on a le droit d'être prudent, je crois. Mais ça m'a beaucoup choqué qu'on laisse faire ça, quoi. Beaucoup choqué.
Et les parents?
Les parents, ils sont appelés à fermer leur gueule, comme d'habitude, comme maintenant aussi. Voilà, si vous n'êtes pas dans le bon courant de la pensée du politiquement correct, vous passez pour un affreux réacte, voire un fasciste, voire ceci. Donc on comprend que les gens, de guerre lasse, voilà.
Ouais, c'est triste. Hein.
Oui.
On peut parler peut-être de Carlos. Alors je sais même pas, j'ai mal écrit en plus. Carlos Martins Bilongo.
Martins Bilongo, oui.
Ah, oui. Le député LFI.
Oui, ah, oui.
Bon, alors lui, on l'a découvert parce qu'il y a quelqu'un, un député qui lui a dit retourne en Afrique en Assemblée nationale.
Non, 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 non. Vous tombez dans le piège, ma sœur Fabienne.
Ah bon?
C'est-à-dire, c'était à propos de l'Océan Viking. L'Océan Viking, il a parlé du bateau qui amenait les migrants. en France, et le député Rassemblement National a dit qu'il retourne, en Afrique. Le bateau.
Oui, 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 bien sûr. Mais on a découvert à ce moment-là, on a vu le visage député.
Ce que je me permets de dire, c'est pas, il a dit aux députés noirs, retourne en Afrique. Il a parlé du bateau des migrants.
D'accord.
Voilà. C'est d'ailleurs ce qui avait été retenu le compte rendu.
Bon, alors ce fameux monsieur Carlos.
Il est bien.
Il y a une ouverture d'enquête pour fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux. Et puis, alors, j'ai cherché. Hein, alors là, ça m'a fait vraiment rire sur les logements sociaux. Il avait un logement social à Villers-le-Bel, dans le 95, puisqu'il est député de. Je rappelle, il est député dans le Val d'Oise. Alors, il a eu un logement social. Et puis en 2018, il a acheté deux appartements. Mmh. Un appartement qui était pour du locatif. Le loyer permettait de rembourser son prêt. Mmh. Et un, c'était pour y habiter. Mais alors, il a eu 2 ans de travaux. Hein. 2 ans de travaux dans l'appartement. Jusqu'en 2020. Et en 2020, il a dit, je quitte mon appartement. Sauf bizarre. Il a quand même gardé l'appartement, le logement social, qu'il a sous-loué à sa sœur.
Mais il a le sens de la famille. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Bon, et quand même, entre 2018 et 2020, il aurait dissimulé 200 000 euros. Mm-mm. Et il a un compte non déclaré à l'étranger. Mm. Ça dérange personne. Là, on n'entend personne, hein. On n'entend absolument personne. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il vient de sortir un livre. Hein, le 11 mai, il a sorti un livre, Noir français.
Oui.
Et alors, dans ce livre, il y a une phrase qui interpelle ce monsieur. « La France, ce pays raciste qui ne donne aucune chance aux Noirs et aux Arabes, ce pays dans lequel le racisme systémique est exploité par les autorités, les Français, ces islamophobes. » Alors, je rappelle quand même qu'il est député.
Oui. Et qui, avant d'être député, le système lui a permis d'avoir les moyens d'acheter deux appartements,
de dissimuler 200 000 euros.
200 000 euros et tout ça, voilà. Donc, alors, j'espère qu'il va être poursuivi, mais enfin, il va pouvoir s'en sortir parce qu'il va plaider, comme toujours.
Vous êtes raciste, voilà.
Voilà, c'est ça, ça va. Enfin, ils sont bien, la France insoumise, quand même. Mais c'est ceux qui.
Incroyable.
D'abord, c'est la haine du riche. Monsieur Mélenchon, il est millionnaire.
Oui.
Millionnaire, je plaisante pas, c'est factuel. Il a plus d'un million de patrimoine. Plus d'un million d'euros de patrimoine. 1,4 million, je crois, le patrimoine.
Et il a déjà travaillé? Ou il a toujours fait comme la politique?
Mais c'est l'État bourgeois qui l'a engraissé toute sa vie. Moi, je crois, l'État bourgeois, c'est abominable. Il faut changer tout ça. Enfin, ils sont très drôles, c'est-à-dire que dès qu'ils entrent dans une croisade contre les riches, on s'aperçoit que l'autre, il planque 200 000 euros, il a deux appartements, il a logé dans un logement social. Dès qu'ils entrent dans la croisade pour les violences faites aux femmes, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a tabassé, qui a foutu des claques à sa femme. Mmh. Ben voilà. Vous comprenez, c'est très, très intéressant. Mais c'est très intéressant aussi de voir le peu de conséquences que ça a. Imaginez que ce soit à l'autre bout de l'Assemblée nationale. Ce serait absolument...
Ce serait un scandale.
Ce serait un tsunami de protestations, d'interdictions, de manifestations, de ceci, de
ça, c'est
de
vrai.
Cela.
Alors, Dominique.
Alors, Nicolas Sarkozy a été condamné en appel. Il a pris 3 ans, dont 1 an ferme. Alors, la condamnation est supérieure aux réquisitions du parquet. Alors ça pardonnez-moi, mais ça me sidère. Ça me sidère. C'est ça, à mon avis, la démonstration que les juges sont en train de s'apercevoir qu'ils sont sur un dossier complètement foireux, bancal, qui ne tient pas, qui est au bord du déni de justice, justement, et qu'on en fait des tonnes. On va le plus loin possible dans la sévérité de ressentiment. Alors j'espère, parce que c'est quand même une affaire extraordinaire, cette affaire des écoutes. Il y a eu des écoutes. D'abord, c'est très curieux qu'un avocat et son client puissent avoir leur conversation téléphonique violée. C'est contre tous les principes qu'on peut imaginer. Maintenant, les avocats, j'en entends certains qui ont plusieurs téléphones, enfin, parce qu'ils en sont là. Les droits de la défense sont fortement mis à mal, y compris dans ce procès, s'ils devaient faire jurisprudence. jurisprudence. Voilà. Donc déjà, c'est étonnant. En plus, c'est pour une corruption, une promesse qu'aurait été faite de d'aider un magistrat d'Adibert, je crois qu'il s'appelle, d'avoir un poste à Monaco. Mais c'est l'intention. Ça n'a jamais été mis en acte, si j'ai bien compris. Mmh. J'ai bien compris. Le troisième point très étonnant, c'est que la présidente du tribunal, quand elle lit ses motivations, il y a presque un aveu de haine. Elle dit c'est très grave parce que c'était un président de la République, parce que c'est un ancien président de la République. C'est presque un réquisitoire. Le réquisitoire est passé, mais les motivations du jugement sont presque une sanction ad hominem, et pas pour les faits, mais parce que c'est cet homme-là, parce que c'est cette fonction-là. Voilà. Donc, quand on rentre là-dedans, c'est pour ça que je me permets de dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont sur un coup foireux. Quand on arrive à ce genre d'argumentation, c'est que les faits ne sont pas assez solides. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Si c'est les faits étaient établis, si ceci, cela, c'est bon. Alors, c'est
parce
vrai.
Que c'est lui, et c'est parce qu'il il était au LR. Enfin,
voilà. UMP, voilà. Ou... Puis il y a eu entre tout, comme beaucoup de présidents de la République, beaucoup d'exécutifs et de judiciaires, il y a des contentieux, des égaux, des choses qui se sont. Mais là, cette motivation-là, l'insistance de la présidente pour cet aspect-là des choses, c'est la démonstration que le contenu, le fond, est léger et foireux. Alors, se pourvoit en cassation, évidemment. Ouais, évidemment. Et je pense qu'en cassation, quand même, alors la cassation, justement, juge en droit. Elle juge en droit. Donc, ça va être le fond du droit. Est-ce que c'est légitime d'avoir monté ce dossier-là? Est-ce que c'est légitime d'avoir condamné? Là, ça va être légitime sur le plan du droit. Sur le plan des. Donc,
ça date de quand tout ça, là?
C'est la semaine dernière, ça. L'autre semaine.
Non, pas ça. Non, mais l'affaire.
Oh, ça fait, je sais plus, 8 ans, un truc comme ça, c'est l'affaire, vous savez, de...
Bismuth.
Bismuth, oui. Et puis alors, on apprend dans le même temps que il va être traduit en justice pour le financement libyen de sa campagne, là, qui remonte à Mathusalem, je sais plus quelle année, avec d'autres personnes, dont écrit Eric Woerth, qui était le trésorier à l'époque de sa campagne. Donc pour Trésor Woerth, c'est un peu embêtant, parce que s'il avait des espérances dans le remaniement ministériel qui s'annonce, ça va être peut-être un peu gênant, quoique...
Monsieur Macron,
on peut s'arranger. Mais voilà, donc il y a un moment où il va falloir arrêter quand même... Parce que là aussi, je suis pas bien certain... Mais je viens avoir suivi le départ de l'action. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu perdre un peu le fil, mais ça me paraît pas non plus terriblement établi, cette affaire-là. Ça me paraît pas non plus du solide. Ces accusations, ça repose sur des gens peu fiables qu'on racontait qu'eux. Donc M. Sarkozy, justice. Alors il est solide.
Oui,
je peux vous dire
vrai,
qu'il est solide, hein, parce que ça va bien. Enfin, cette affaire-là, cette condamnation supérieure aux réquisitions, avec un an de prison ferme pour un ancien président de la République, sur un dossier comme celui-ci, c'est de l'attaque ad hominem. C'est de la petitesse judiciaire.
On a entendu aucune réaction des Républicains. À part Nadine Morano.
Elle
a fait un petit tweet. Ouais.
Mais voilà. Bon. Alors les Républicains, M. Ciotti, il a fait ce qu'ils appellent the shadow cabinet, comme les Anglais font. C'est contre-gouvernement. D'abord, il n'invente rien, parce que François Mitterrand, au temps de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, c'était les élections législatives de 1967. Parce que moi, j'étais à l'université en 1967 et je collais et je militais pour la victoire de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, figurez-vous, à l'époque, j'avoue. Mmh. Alors, j'étais jeune, bon, voilà. Et donc, François Mitterrand avait fait un contre-gouvernement. Il appelait ça un contre-gouvernement. C'est-à-dire, on met des noms, celui-ci sera ministre de la Justice. Si je me souviens bien, ça devait être Roland Dumas. Enfin, voilà, des choses comme ça. En fait, c'est du pipeau. Parce que,
j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a fait, Éric Ciotti?
Il a fait comme s'il nommait des gens à des postes de gouvernement. D'accord. Monsieur Juvin, je sais pas où, enfin voilà, et puis un ministre de l'éducation, un ministre de ceci.
Ça sert à quoi?
Ça sert à occuper le terrain médiatique, mais ça fait flop parce que ça ne peut que faire flop. Et en 67, ça avait déjà fait flop à ce moment-là, parce que c'est en fait faire le casting avant de donner le scénario du film. Donc ça percute pas dans l'opinion. Et en plus, faut trouver des gens qui aient une véritable existence dans l'opinion, et c'est plus tout à fait le cas. C'est voilà qui est une véritable personnalité. Donc faire le casting avant qu'on ait le scénario du film, c'est jamais très bon. Mais enfin, moi je comprends Éric Ciotti. Hein. Il faut faire quelque chose. Monsieur Wauquiez a occupé les médias la semaine dernière ou il y a 10 jours. Donc il faut contrebalancer et se débrouiller pour faire quelque chose. Pour se donner à soi-même l'illusion d'avancer, alors que manifestement on n'avance pas beaucoup.
Alors pour terminer cette émission.
Pour terminer sur cette émission, je vais, pardonnez-moi, continuer ma colère après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Parce que là, ce que font les juges, c'est à la fois semer une sorte de discrédit sur la justice elle-même, parce que les gens ne sont pas dupes de ça. De cet acharnement, de la faiblesse du dossier d'accusation. Les gens ne sont pas dupes de ça. Et du discrédit de l'institution politique. De l'institution politique. C'est-à-dire, ils n'attaquent pas, ils ne condamnent pas seulement. Ils auraient dû réfléchir à ça, mais je ne pense pas que ça soit leur souci majeur. De dire, attention, c'est quand même un ancien président de la République, donc il reste quelque chose de la fonction à travers lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il désacralise encore un peu plus la fonction dans un moment où il n'y a pas besoin de ça. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a une espèce de responsabilité morale et politique de ce jugement qui va bien au-delà du judiciaire.
Pauvre Emmanuel Macron, hein?
Comment?
Pauvre Emmanuel Macron, hein?
Oh, Emmanuel Macron, il se débrouillera avec tout ça.
Non, mais déjà qu'il n'est pas très bien respecté.
Mais non, mais ça participe de ce désaveu, de ce désenchantement de la vie politique et de tout ce... Voilà.
Je voulais dire quand même que grâce à la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins,
oui.
Enfin grâce, le pauvre. Bon, il soutient, hein, je pensais que peut-être il allait revenir sur sa décision. Je pense que notre préfet, il va sauter.
Oui, oui.
Je pense qu'on va encore changer de préfet prochainement dans la région.
C'est difficile. Mais vous avez vu la maladresse là encore? Pardonnez-moi, mais moi, je me demande toujours qui conseille ces gens-là. Parce que Madame Borne, qu'est-ce qu'elle fait fuiter? Qu'est-ce qu'elle laisse dire dans la presse avant de le recevoir? Qu'elle va tenter de le faire revenir sur sa décision de démissionner. Manque de peau, il lui fait non pas un doigt d'honneur, mais un vrai bras d'honneur. Il dit non, moi je maintiens ma démission. Comment fait-elle pour laisser communiquer sur ça sans connaître le résultat? Vous vous rendez compte l'erreur
oui,
de communication?
Oui, mais alors est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui accepte? Par exemple, on a déjà eu l'exemple ici où quelqu'un a fait style « je démissionne ». Parce qu'il y avait les gens du voyage qui s'étaient installés sur le terrain de football. Mais après, il faut que c'est le préfet qui doit accepter votre démission.
Oui. Oui.
Et s'il n'accepte pas?
Ah ben non, attendez, il n'accepte pas. Il y a une démission. Il y a un moment où il peut accepter, puis il y a un moment où il peut plus accepter, il peut plus. Alors il a refusé la démission parce que Madame Borne le lui a demandé, le préfet. Mais une fois que Monsieur le maire de Saint-Brévin a dit les yeux dans les yeux à Madame Borne, je démissionne, c'est fini. On peut pas l'emmener à coup de fouet dans sa mairie pour siéger.
Oui. Hein, donc voilà. Il démissionne.
Non, mais voyez l'erreur de communication déjà avant même de connaître le résultat. Elle laisse fuiter qu'elle va tenter de le faire revenir sur sa démission, alors que elle le faisait sans en parler avant et elle y arrivait. C'était triomphe pour elle. Elle n'y arrivait pas, ça changeait rien. Voilà.
Bon, en attendant, moi, grâce à cette démission, j'ai mis un visage sur notre ministre délégué chargé des collectivités territoriales.
Ouais,
Dominique Faure.
Ah ouais?
J'avais jamais vu.
Ben non, mais on parle beaucoup de problèmes de logement en ce moment. Vous savez qui est le ministre du logement?
Non.
Eh ben moi non plus. Et pourtant.
Est-ce qu'il y en a un?
Il y en a un.
Est-ce qu'il y a un ministère du logement?
Ben oui, il y a un ministère, il n'y a pas un ministère, il y a un ministre subdélégué probablement au logement ou quelque chose comme ça.
Voilà. Un secrétaire d'État.
Oui, j'en sais rien. Voilà.
On se retrouve demain, Dominique.
Oui.
Même heure, même endroit.
Absolument.
En pleine forme. Merci à tous. On se retrouve demain et surtout, prenez soin de vous. À demain.